Bon, cette semaine, j'ai fait la connaissance, en lisant un livre, j'ai fait la connaissance de Jean. Jean, la trentaine, qui est père d'une jeune fille mariée et un paysagiste talentueux. Son œil d'artiste, son éthique ont fait de lui un homme respecté et apprécié de ses clients. Qu'il construise une terrasse en bois ou installe des arbustes ou des plantes, son travail est toujours impeccable. Mais Jean est un homme compliqué. Un jour, il entre dans le bureau d'un conseiller pour lui confesser un problème d'alcoolisme. Derrière son apparence gentille et sérieuse, se masque en vérité un naufrage intérieur. Pendant des années, Jean a caché une souffrance intérieure plus profonde encore. Victime de violences dans son enfance, Jean utilisait l'abus d'alcool pour endormir sa douleur. Derrière sa lutte contre l'alcoolisme, Jean luttait pour vaincre un plus grand problème. Parfois, une lutte peut en cacher une autre. Et quand on en arrive à Jacob cet après-midi, on a Jacob, qui est l'histoire de cet homme qui est parti de chez lui après s'être fâché contre son père et son frère. Vous pourriez décrire sa vie comme une succession de luttes. Mais derrière toutes ces luttes, en fait, se cache une lutte plus profonde. Alors, est-ce que je peux vous demander, cet après-midi, quelle est votre plus grande lutte en ce moment dans la vie? Peut-être est-ce une lutte contre un péché? Peut-être vous êtes en face d'un challenge de taille, une épreuve qui est grande? Peut-être est-ce une galère dans la vie? Quelle est votre grande lutte du moment? Eh bien, pas toujours, mais parfois, une lutte peut en cacher une autre. Et dans ce moment intense de la vie de Jacob, Jacob, il est en route vers l'accomplissement de la promesse de Dieu pour lui. Rappelez-vous, il est parti de chez lui et il est maintenant en train de répondre à ce commandement de Dieu qu'on avait entendu la semaine dernière, de retourner dans son pays, dans sa patrie, et de s'y établir. Seulement, Jacob fait face à un obstacle majeur sur cette route en direction de l'accomplissement de la promesse. Son passé. Son frère Ésaü, qui avait promis de le tuer, parce que ce dernier lui avait volé son droit d'aînesse et sa bénédiction, se trouve en face de lui. Et un peu comme dans le film Tekken avec Liam Neeson, Esaïe, qui est un chasseur habile, avait promis: je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. Oui, Jacob est en route vers l'accomplissement des promesses de Dieu, mais devant lui se dresse un obstacle de taille: Esaü. Ésaü, son frère, à la tête de 400 hommes, 400 guerriers, 400 hooligans, qui, semble-t-il, sont prêts à en découdre avec lui une bonne fois pour toutes. Comment vous réagissez quand vous vous trouvez dans un moment chaud? Comment réagissez-vous dans une galère, dans une lutte, dans une épreuve? Quel est votre premier réflexe? Est-ce que vous priez? Ou est-ce que vous planifiez une issue de secours? Prière ou plan? Eh bien, Jacob, il fait les deux. Regardez avec moi. Après avoir vu les anges de Dieu qui lui rappellent la vision à Bethel, Jacob se met à planifier. Vous, les messagers, allez devant auprès de Ésaü et dites-lui, regardez au milieu du verset 5, j'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Alors, quand on est parti de la première année de l'Institut biblique de Genève, où on nous a fait notre formation, ma femme et moi avons pu mettre toutes nos affaires dans une Citroën Saxo. Alors que maintenant, il nous faudrait plutôt un camion pour déménager. De même, Jacob, maintenant, il est parti seul, sans rien, et il revient super riche. parce qu'il est un généticien ingénieux chez son oncle Laban, il a prospéré. Il est super riche et il divise son camp, probablement en interprétant la vision des anges, puisque Mahanaïm veut dire deux camps. Alors d'après vous, est-ce parce qu'il a confiance en Dieu? Est-ce parce qu'il a confiance en Dieu qui est Jacob divise son camp en deux comme ça? Ah, je pense pas. Regardez verset 9. Jacob se disait, si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. En fait, Jacob, il est en train de planifier une issue de secours. Il se dit, bah, je ne suis pas sûr que Dieu sera présent avec moi face à Ésaü. Alors si le plan A ne marche pas, plan B, il est en mode, aide-toi et le ciel t'aidera. Jacob a un plan. Puis il prie au verset 10 à 13, une prière remarquable, la plus longue qu'on trouve dans la Genèse, une prière modèle qui se base sur les promesses de Dieu, une prière de supplication pour ce qui est vraiment important, délivre-moi, une prière qui cherche à prendre Dieu au mot, un modèle pour nous. En tant qu'enfants de Dieu, en priant, nous faisons écho à ce qu'il nous a déjà dit. C'est ça la prière dans la Bible. Jacob prie. Puis à nouveau, il a un plan, verset 14. Il rassemble des animaux pour faire un cadeau à son frère, verset 15, 2 chanzèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chamelles, 20 ânes, 10 ânes. Alors cette semaine, j'ai demandé à un spécialiste de la viande, combien pouvait coûter un tel volume d'animaux? Alors il m'a dit de me méfier de l'inflation du prix de l'âne, qui pouvait être supérieure de 50 centimes du kilo, je le crois. Et je ne suis pas du tout expert, si vous avez un avis différent, venez me voir, je suis pas du tout expert. Mais c'est un cadeau d'une valeur d'environ 1,5 million d'euros. Pas mal. D'après les experts, ceci est un cadeau royal. Un cadeau royal. Et Jacob continue son plan. Vous séparerez les troupeaux, vous les mettrez à une certaine distance. N'oubliez pas, quand vous voyez Ésaü, dites-lui bien, ton serviteur Jacob vient derrière nous. Seigneur Ésaü, voilà un cadeau de ton serviteur Jacob. Avec ce plan, vous voyez qu'implicitement, Jacob, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ton serviteur, mon Seigneur Ésaü. Eh bien, Jacob, il est en train implicitement d'exprimer à son frère qu'il est en train de lui rendre son droit d'aînesse. Jacob rend le droit d'aînesse qu'il lui avait volé. Et que fait Jacob quand il est en crise? Est-ce que vous avez vu? Il planifie. Il prie. Il planifie. Il prie. Il vous rappelle quelqu'un? Voyez, Jacob, c'est un self-made man. Un homme qui aime créer son propre futur, qui prend son destin entre ses mains. Un homme qui obtient ce qu'il veut à la force de son poignet. Il est un businessman qui a réussi. Il est assez sûr de lui. Pour certains de nos contemporains, la foi, c'est une béquille pour les faibles. Bah, pas pour Jacob. Il est un homme fort, doué, et il le sait, au risque parfois d'être autosuffisant, de trop compter sur ses propres forces. Sa devise à Jacob, c'est bien souvent « aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais en même temps, il manifeste une certaine confiance en Dieu. Jacob prie. En fait, Jacob, il est ambivalent. Il commence à vous rappeler quelqu'un? Je me souviens d'avoir entendu un officier militaire à la retraite parler de son expérience lors de l'intervention des forces armées en Irak. Il était le seul homme de foi de son bataillon. Mais c'est bien simple, rapporte-t-il, lors des assauts sous les bombes, tout le monde prie. Beaucoup d'entre nous, on est brillants. On a compris la vie. On a compris comment parler aux gens, comment charmer, comment faire tourner le monde autour de nous. On aime et on est fier de notre indépendance. Mais au fond, si on fait un bilan honnête de notre existence, en fait, on s'aperçoit qu'on ne maîtrise pas grand-chose. On ne maîtrise pas grand-chose déjà dans notre vie. Et à plus forte raison, on ne maîtrise rien face à la mort. On a besoin de Dieu. Bien souvent, nous nous cachons sous un vernis d'assurance et d'autosuffisance, mais au fond, nous le savons tous, on a besoin de Dieu. C'est bien simple, lors des assauts, sous les bombes, tout le monde prie. Nos galères, nos luttes, nos crises, parfois les bombes, nous rappellent que nous avons besoin de Dieu. Et si on ne l'a pas encore appris, tôt ou tard la vie nous l'apprendra. Parce que qu'est-ce que la vie sinon une parabole de la faiblesse? Plus on est âgé, plus on réalise combien on est fragile, combien on est vulnérable. On ne pourra pas être en mode aide-toi et le ciel t'aidera toute notre vie. Et c'est vrai d'un point de vue extérieur. Jacob, c'est un homme qui est en lutte avec le monde. Il est en lutte avec son frère qui lui a volé, à qui il a volé le droit d'aînesse. Il est en lutte avec son père à qui il a volé la bénédiction. Il est en lutte avec Laban, de chez qui il est sorti après un Brexit soft. Il est en lutte avec ses femmes qui sont en compétition pour essayer de se l'accaparer. Jacob est un homme en lutte. Mais derrière toutes ces luttes se cache en réalité une lutte plus profonde. Alors que Jacob, il est au pied du mur, seul, dans la nuit noire, les pieds dans ce torrent du Jabbok qu'il vient de faire traverser à sa famille dans l'urgence, plein d'angoisse et de frayeur à l'idée de rencontrer son frère Ésaü. Alors que Jacob veut en finir, un homme prend l'initiative de le rencontrer, plutôt un homme prend l'initiative de lutter. Verset 25. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alors, qui est l'homme avec qui Jacob se bat? Certains commentateurs pensent qu'il s'agit du Christ, Jésus-Christ préincarné, mais c'est probablement aller trop loin et un peu spéculatif, puisque Osée 12 nous donne en fait la réponse. Osée est un prophète qui viendra plus tard. Il nous dit au chapitre 12, verset 4, ne le prenez pas. Dans le ventre maternel, Jacob a attrapé son frère par le talon et devenu homme, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange. Du coup, à travers l'ange, qui représente Dieu. Dieu lui-même condescend à venir lutter contre Jacob. Dieu accepte de revêtir l'apparence de la faiblesse pour lutter avec Jacob. Et cette lutte dure des heures. Ça peut faire peur, l'idée de lutter avec Dieu. Mais parfois, la vie spirituelle, ça ressemble à ça, une lutte. Seulement, ce n'est pas une lutte pour nous faire du mal. Ce n'est pas une lutte pour nous terrasser. C'est une lutte qui nous permet de goûter à sa puissance de transformation. Cette lutte avec Dieu, elle est là pour purifier la foi de Jacob, pour le rendre humble devant lui, pour l'aider à réaliser son besoin de Dieu. Jacob ne rentrera pas dans la terre promise en comptant sur ses propres moyens, mais uniquement parce qu'il s'accroche à Dieu. Et donc Dieu lutte avec Jacob. Mais qui est vainqueur dans cette bagarre? Ben, c'est plus compliqué, hein? L'ange ne parvient pas à vaincre Jacob et là, il le frappe. Ou plus justement, il le touche légèrement à l'emboîture de la hanche, qui à ce moment-là se disloque. Face à une telle démonstration de puissance, Jacob réalise qu'il n'a pas affaire à un simple homme. L'homme le supplie, laisse-moi partir car l'aurore se lève bientôt. Et Jacob répond, en réalisant qui il a en face des yeux, je ne laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Et à ce moment-là, une étrange discussion commence, puisque quand l'homme demande à Jacob, quel est ton nom? Il n'est pas simplement en train de lui demander de l'aider à remplir sa fiche contact sur son smartphone, puisque le nom dans la Bible, c'est plus que ça. Le nom dans la Bible révèle le caractère de la personne. Or, qui est en train de demander à l'ange qui représente Dieu cette fameuse bénédiction? Ou plutôt, quel genre de personne est en train de demander la bénédiction de Dieu? C'est Jacob. Or, demander à Jacob son nom, à ce moment-là, pour cet homme, c'est comme demander, Jacob, ça y est, tu t'es enfin regardé dans ton miroir, tu t'es enfin regardé dans la glace, est-ce que tu es prêt à reconnaître qui tu es vraiment? Il répondit, Jacob, ou plutôt, trompeur, je suis trompeur. Qui est la signification du nom de Jacob. Vous voyez, cette étrange discussion mène à cette confession. Qui êtes-vous? Jacob répondit, je suis trompeur. Et vous? Qui êtes-vous? Trompeur? Voleur, manipulateur, paresseux, colérique, jaloux, autosuffisant. Quel est ton nom? À quoi ressembles-tu réellement? Jacob répondit, trompeur. Qu'est-ce que vous répondez? Verset 29. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob, il est changé par cette lutte, par cette rencontre. Que fait Dieu à ce moment? Eh bien, Dieu lui donne une nouvelle identité, un nouveau départ, une nouvelle identité et une béquille. Jacob s'appelle maintenant Israël, celui qui a lutté avec Dieu et qui est vainqueur. Et de cette lutte, il gardera cette marque à vie. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais à Dieu de rentrer dans notre monde, mais c'est toujours à nous de rentrer dans le monde de Dieu. Ça, c'est le secret de la repentance. Derrière toutes les luttes de Jacob, il y avait une lutte plus profonde, sa lutte avec Dieu. Par ses propres forces, Jacob essayait de gagner la bénédiction. Cette bénédiction de Dieu, en tentant de faire rentrer Dieu dans ses plans, dans ses stratagèmes, dans ses combines, dans ses tromperies, alors qu'en réalité, c'était à Jacob de rentrer dans le plan de Dieu. Et c'est en trouvant grâce aux yeux de Dieu que Jacob devient à ce moment-là vainqueur. Comme l'a dit un commentateur, Jacob a gagné la bénédiction en perdant face à Dieu. Verset 30. Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom !» Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu donc mon nom ?» Et regardez ce qu'il fait. Il le bénit là. À partir de ce jour, à partir du moment où il confesse devant Dieu qui il est vraiment. L'homme Jacob peut réellement voir Dieu pour qui il est. Verset 31. Jacob appela cet endroit Peniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. De même pour nous, si nous confessons notre besoin de Dieu, si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle pour nous les pardonner. Si Dieu nous parle en ce moment, s'il nous montre cette lutte plus profonde dans un domaine de notre vie, confessons-le. Peut-être pour la première fois cet après-midi. Et nous avons l'assurance, nous serons pardonnés, même si cela nous conduit finalement à prendre une béquille. Une lutte avec Dieu, ce n'est pas pour nous détruire, c'est jamais pour nous terrasser, mais pour nous rendre humbles, afin que nous puissions expérimenter une puissance de transformation, une nouvelle identité, une relation face à face avec Dieu qui nous sauve et qui nous bénit. Et regardez comme Jacob est changé. Plusieurs fois, Jacob appelle Ésaü mon Seigneur et se décrit comme son serviteur. Il se prosterne ainsi que sa famille en signe de déférence. Verset 11. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert. Ah, littéralement, on peut lire, accepte donc ma bénédiction. Tellement comblé par sa rencontre avec Dieu, Jacob rend la bénédiction volée à Ésaü. Autrefois accapareur, Jacob est maintenant un généreux donateur. C'est un homme transformé. Et regardez quelle est la motivation, il le dit deux fois, verset 10. Jacob répondit, non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, j'ai regardé comme on regarde Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Verset 11. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert puisque Dieu m'a comblé de grâce. Je ne manque de rien. Depuis que sa relation verticale est changée, ses relations horizontales sont aussi impactées. Et dans ce compte-rendu ici, Jacob, qui cherchait à gagner la faveur d'Ésaü, vous vous rappelez, a apaisé la colère de son frère. Depuis qu'il a trouvé la faveur imméritée de Dieu, Dieu lui permet aussi de régler ce problème et de se réconcilier avec son frère Ésaü. Vous voyez comment une lutte peut parfois en cacher une autre? Parfois, nos problèmes relationnels ou nos galères, nos épreuves, ces moments de chaleur qu'on ressent, eh bien, c'est l'arbre qui cache la forêt. Une lutte plus profonde est peut-être à régler avec Dieu. Est-ce que vous voudriez y réfléchir ce soir et cette semaine? Qu'est-ce qu'on est censé faire de ce texte? Qu'est-ce que signifie ce texte pour les premiers destinataires? Eh bien, on a un petit commentaire qui semble être juste une parenthèse, mais qui donne, je crois, la portée de ce texte pour le peuple d'Israël, les descendants de Jacob, qui vont recevoir cet enseignement alors qu'ils vont entrer dans la terre promise. Est-ce que vous avez remarqué encore ces versets 32 à 33? Versets 32 et 33 qui nous parlent étrangement d'un régime alimentaire chez le peuple de Dieu. Je vous relis ces versets, chapitre 32, verset 32, 33, plutôt verset 33. Voilà pourquoi aujourd'hui encore les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Eh bien, c'est quoi ce commentaire? Qu'est-ce qu'on est censé en faire? Eh bien, ce jour-là, Israël, le jour où il y avait dû à manger et qu'on laissait le tendon passer, on devait se rappeler du Dieu avec qui ils sont en train d'entrer dans la terre promise. S'ils entrent dans cette terre promise, ce n'est pas à la force de leur poignet. Ce n'est pas parce que ce sont les plus beaux, les plus intelligents, qu'ils ont réussi. Non, c'est grâce à Dieu. Versets 32 à 33. Ce n'est pas une question de régime alimentaire, mais une révélation du caractère de Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui transforme des Jacob en Israël. Il est le Dieu qui ne change pas forcément nos circonstances, qui n'empêche pas forcément qu'on ait à gérer les conséquences de nos péchés passés. Mais il est le Dieu qui nous donne une nouvelle identité et une béquille pour nous faire goûter à sa puissance de transformation. Certains m'ont dit, oh, on est un peu gêné par Jacob, histoire dans la Bible et tout, que Dieu l'ait choisi. Pourquoi il a choisi cette famille pour se révéler au monde? Mais n'y a-t-il pas un peu de Jacob en chacun de nous? Trompeur, autosuffisant. Cependant, c'est la bonne nouvelle de cet après-midi. Dieu désire aussi nous appeler Israël, parce que nous avons lutté avec Dieu. Et nous avons vaincu. Par la foi, nous pouvons obtenir aussi la bénédiction, l'approbation, la bénédiction qu'on essaye d'obtenir par nos propres forces. Elle nous est aussi proposée cet après-midi à nouveau. Voyez dans la pénombre du Jabok, Dieu est devenu faible pour lutter avec Jacob pour le rendre vainqueur. Et des centaines d'années plus tard, dans la pénombre, au sommet du mont Golgotha, Dieu va devenir réellement faible en Jésus-Christ pour nous rendre aussi vainqueurs. La croix. Derrière l'apparente faiblesse de Dieu se cache une grande victoire. Jésus, celui qui est aimé de toute éternité, qui avait la bénédiction de Dieu, il est devenu péché sur la croix pour que nous puissions être approuvés par Dieu. Et quand Dieu dit à Jésus lors de son baptême, « Tu es mon fils bien-aimé, en qui tu as toute mon approbation », du fait du grand échange qui se passe sur la croix de Jésus-Christ, nous pouvons ainsi entendre pour nous la voix de Dieu cet après-midi, « Tu es mon fils ». Tu es ma fille. Tu as toute mon approbation. C'est le terminus de la quête de Jacob. Et c'est peut-être le terminus de la quête de quelqu'un cet après-midi. Quelqu'un qui est fatigué de lutter. Quelqu'un qui est au bout du rouleau. Quelqu'un qui entend pour la première fois, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, tu as toute mon approbation. S'il te plaît, abandonne ta vie à Dieu, même si ça peut vouloir dire boiter. Parce que c'est ça d'être sauvé par grâce. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Parfois, une lutte peut en cacher une autre. Dans sa grâce, Dieu lutte avec nous pour nous bénir. Abandonnons notre autosuffisance pour nous tourner vers lui et recevoir sa bénédiction ce soir encore. On peut prier. Bon, quelle révélation, Seigneur, de qui tu es, de ta personne, de ce que tu prends l'initiative de venir parfois lutter avec nous pour que nous puissions expérimenter une grande transformation. Merci parce que grâce à Jésus-Christ, tu nous permets de vivre réellement ce changement d'identité, même si ça passe par la repentance, par l'acceptation de notre besoin de toi et notre reconnaissance que si nous sommes sauvés, si nous sommes délivrés au milieu de nos luttes, en route vers la terre promise, c'est parce que nous nous accrochons à toi. Je prie que tu nous aides encore par le Saint-Esprit à nous montrer notre besoin de nous accrocher à toi. Amen.